Bonjour. Pour vous présenter la pathologie sociale au Brésil, j'ai organisé cet exposé en contexte transpo, origine, politique, public et expérience. En étant un sujet qui a toujours intéressé comme chercheuse, professionnelle du champ muséal et après professionnelle de muséologie à l'Université fédérale de Goiás, au Brésil, j'ai poursuivi ce parcours en Europe depuis juillet 2018 comme professeur de muséologie à l'Université de Liège. Dans cette université, au cœur du séminaire de muséologie, j'ai initié avec un petit groupe de chercheurs intéressés les projets de recherche de muséologie en sujet échange entre le Brésil et l'Europe. Les projets s'intéressent aux nouveaux sujets de la muséologie du XXIe siècle, connus dans les vagues de renouvellement de la muséologie au long du dernier siècle, originellement en Europe, et qui ont créé des nouveaux mouvements, comme le mouvement international pour la nouvelle muséologie, MUM. Ces vagues de renouvellement conceptuel ont aussi géré plusieurs expérimentations qui sont à l'origine des modèles innovants des musées, tels que les écomusées, musées de territoire, musées de voisinage et musées communautaires, entre autres, originellement en France, mais après disséminés surtout au Portugal, au Canada, au Mexique et au Brésil. Dans son texte, quelques aperçus sur les musées communautaires au Brésil, Hugues de Varine remarque que pendant ses deux premières visites au Brésil, en 1967 et 1974, encore sous un régime de dictature militaire, il a perçu des changements, peu de changements dans les musées traditionnels brésiliens, même si certains éléments qu'on peut considérer aujourd'hui comme inspirateurs pour le renouvellement de la muséologie étaient déjà là. Premier, merci. Georges-Henri Rivière, un des pères de la nouvelle muséologie, avait déjà visité le pays en 1958, quand il a participé du souvent appelé séminaire régional de l'UNESCO sur la fonction éducative des musées. En effet, cet événement était un cours nommé officiellement par Georges-Henri Rivière dans le rapport « Stage régional d'études de l'UNESCO sur le rôle éducatif des musées ». Ces cours réalisés entre 7 et 30 septembre 1958 au Musée d'Art Moderne du Rio de Janeiro, continuait une initiative de l'UNESCO d'encourager l'amplification de l'actuation éducative des musées autour du monde. Et il avait eu déjà une édition à New York et à Athènes. Différemment des précédents, cette édition a concentré les recrutements des assistants entre les professionnels des musées de la région d'Amérique latine. Les séances de travail et cours étaient précédées par des enquêtes entre les participants pour favoriser une discussion concrète des problèmes et visites à des musées constitués aussi et les visites au musée constituaient aussi partie du stage. Les principaux sujets ont été l'adaptation des expositions au rôle éducatif des musées, les concepts de musée, muséologie, son caractère scientifique et muséographie, et la relation musée-école. À la fin, les participants ont élaboré un document avec les conclusions du stage publié par l'UNESCO. Cet événement a été réalisé avant le début de la dictature au Brésil et la participation des professionnels a privilégié les grands musées traditionnels, surtout du Rio de Janeiro. Il faut mentionner que cette ville a sido ce moment-là, était la capitale du Brésil, possédait déjà une formation conservateur de musée depuis 1932 au Musée historique national, mais en cours à ce moment encore très classique lié aux collections et histoire positiviste et militaire. Un deuxième élément qui était déjà là, c'est le pédagogue brésilien Paulo Freire, qui avait déjà publié ses livres Éducation pratique de la liberté, première édition publiée en 1967, et Pédagogie des opprimés, 1968. Sa pensée, fondée sur des idées comme éducation populaire et permanente, et l'éducation commise avec la problématisation, la capacitation pour la prise de décision, la lecture critique du monde, la conscientisation et la transformation du monde, a beaucoup influencé la muséologie brésilienne, n'est pas immédiatement. Ce n'est pas par hasard que sa pensée a rencontré une profonde réverbération chez Hugues de Varry, qui a déjà écrit en 1969 qu'il faudrait décoloniser les musées. Il a été toujours un grand diffuseur de la pensée de Paul Frère dans le monde du musée. Frère a influencé des musées européens comme Maria Saïd Santos, Odalis Piost dans les années 1980 et 90, surtout, et une nouvelle génération plus récente, mais en 1964, on a vu au Brésil un coup d'État et l'ascension d'une dictature militaire, de façon que Freire est parti en exil. Troisième élément, si le renouveau de la pensée muséologique en Europe peut être attribué en grande mesure au changement survenu après les mai 68, les transformations en Amérique latine sont dues à une diffusion même tardive, via la forte dictature de l'époque, un peu partout en Amérique latine, des idées de la table ronde sur le rôle du musée dans l'Amérique latine à Santiago de Chile en 70. Entre les deux dates, il faut mentionner la conférence générale de l'ICOM de 71 entre Paris, Dijon et Grenoble, et le succès de l'allocution du Mexicain Mario Vázquez interrogeant au sujet du rôle du musée dans la société. Cette table ronde, organisée par l'UNESCO, innove plusieurs aspects. La langue de discussion, l'espagnol, au contraire des événements précédents en anglais ou en français, et l'invitation aux spécialistes latino-américains pour les conférences. La discussion part d'un point de vue interdisciplinaire, des conférenciers viennent de divers champs de connaissances, l'urbanisme, l'agriculture, l'éducation permanente et l'environnement. Hugues de Varry, responsabilisé par l'UNESCO de cette organisation, avait essayé de faire intervenir Paul Freire, avec qui il crée à ce moment en France l'Institut économique et économique pour le développement du peuple, INODEP. Freire a vécu en exil au Chili avant de déménager en Suède et en Suisse. Au Chili, il a établi sa méthode d'éducation populaire en 1965 et sa réussite a attiré l'attention de l'UNESCO qui lui a fait consultant. Selon Hugues de Varry, ça serait l'occasion pour Paul Freire de réfléchir à un concept du musée libérateur et informellement, l'éducateur brésilien avait accepté avec plaisir la tâche, mais il était interdit par le délégué du Brésil à l'UNESCO. Malgré ses premiers insuccès, la table ronde a produit la déclaration de Santiago, un document reconnu comme la plus importante contribution de l'Amérique latine à la pensée muséologique internationale. Elle convoque à une transformation des musées pour accompagner les changements sociaux, politiques et économiques, contribuer pour la formation des consciences, à l'usage social du patrimoine et à la responsabilité politique du professionnel du musée. C'est là aussi que nous voyons surgir les concepts de musée intégral ou intégré. La représentation brésilienne dans cet événement était purement protocolaire, elle n'a pas résulté en diffusion des résultats des discussions dans les pays. La table ronde de Santiago n'a eu aucune répercussion concrète au Brésil dans la même décennie. Et c'est aux années 80, quand la bibliographie de muséologie dans la langue portugaise était encore rare, que des petits ouvrages ont eu le rôle de diffuser au Brésil en même temps la nouvelle muséologie et la potentialité de la pédagogie de Paulo Freire pour les processus de muséologie communautaire. Il s'agit des Museus do Mundo, 1979, et O Tempo Social, 84. Le premier, publié au Brésil, en Espagne et en Suisse par la Maison de São Salvador, présentait un entretien avec Hugues de Varry qui s'est transformé rapidement dans une référence obligatoire à la formation de nouvelles générations de muséologues, éducateurs, historiens et anthropologues du Brésil, selon Mário Chagas et Inês Gouveia, dans une une collection de textes qui s'appelle Muséologie sociale. Mario Chagas, un muséologue brésilien qui a vécu l'époque et est devenu une référence de la muséologie sociale brésilienne actuelle, remémore dans son texte avec Nesbové que malgré la popularité du livre, il n'était pas sujet de formation universitaire en muséologie. L'entretien avec de Varine représentait une touche de rébellion, car il présentait une critique nonobstant son origine européenne aux aspects coloniaux du phénomène muséal. Il attirait l'attention du monde vers la pédagogie de Paulo Freire et sa proposition de transformer l'homme objet de la société de consommation en homme sujet. Le deuxième est la traduction dans le livre de Varine réalisé par Fernanda Camargo et Luiz Novaes et justifie un nouvel voyage de l'auteur au Brésil maintenant dans un contexte de redémocratisation. L'ouverture politique du pays commence en 1984 et est suivie du retour des exilés et d'une nouvelle position pour les mouvements sociaux, processus qui culmine avec la nouvelle constitution appelée Constitution citoyenne en 1988. Vous comprenez bien? Ça marche? Cette constitution exprime les moments de puissance démocratique et de conquête des droits sociaux, mais aussi la frappante diversité culturelle composant de la société brésilienne. C'était la première constitution à reconnaître des droits aux natifs indigènes et au peuple afro-brésilien, mais surtout les quilombolas, ça veut dire des habitants des villages ruraux liés par ancestralité aux esclaves chapés des fermes pendant le 19e siècle. Pendant ses voyages au Brésil, dans les années 80 et 90, Hugues de Varine note déjà partout dans le pays des projets d'expérience de mise en valeur des patrimoines et des mémoires locales, parfois identifiés comme écomusées ou musées communautaires, mais pas nécessairement. Je remarque que la formation de muséologie a commencé à se diversifier et devenir universitaire. Un premier bachelier en muséologie a été créé à l'Université fédérale de Bahia en 1969. Le cours du Rio de Janeiro a été transformé en bachelier en 1974. Et transféré du Musée historique national à l'Université fédérale de l'État du Rio de Janeiro, au Rio, en 1977. Et une première expérience de formation dans le niveau de post-graduation a été établie à São Paulo en 1978. Ce nouveau modèle consistait à 3 années de spécialisation après lesquelles l'étudiant réussit à avoir un diplôme de master en muséologie par la Fondation École de Sociologie et Politique de São Paulo. Le profil engagé de l'institution et surtout de la coordinatrice de la formation Valdisa Russo ont marqué un point de tournage important et reconnu par certains anciens étudiants du Rio et de Bahia après les premiers contacts avec la muséologue paulista.
C'est seulement une blague. Parce qu'en effet, je sais qu'Hugues de Varine est très modeste, il n'aime pas que je cite autant, mais il est vraiment une référence. Hier, au Facebook, plus une mémoire de master était diffusée, et c'est à propos de son impact pour une muséologie de la libération au Brésil. Donc, c'est incontournable. Après, je montre. Mais l'hôtel vient de finir, n'a pas défendu encore de mémoire, il a mis la photo de la couverture au Facebook. Bon, j'arrive à Valdisa Russo. Valdisa Russo affirmait que la muséologie comme tout, pas de musée, mais du fait muséal ou la relation entre homme et objet dans un scénario. Elle interrogeait en 1983 si les concepts, surtout européens et nord-américains, du musée sont les mêmes dans l'Amérique latine. Défenseur de l'utopie comme une étape pour la planification et l'action, Valdisa Russo a affirmé le muséologue comme un travailleur social. Non seulement par l'exercice de la fonction sociale du travail, mais pour travailler de façon engagée avec le changement social. Bon, maintenant, je parle des développements des
ce que j'appelle les muséologies insurgées au Brésil et au pluriel, de la nouvelle muséologie à la muséologie sociale. Dans les années 80, les vagues de mouvement de la muséologie apparaissaient un peu partout. En France, a été créée l'association Muséologie Nouvelle Expérimentation Sociale, MNES, et dans la conférence générale de l'ICON en 83 à Londres, par initiative d'un groupe notamment franco-canadien, dont Pierre Guérin, apparaît la demande de reconnaissance des nouveaux modèles de musée et la création d'un comité international de l'ICON autour des écomusées et musées communautaires. Une compréhension idiomatique, mais surtout des idées, finit pour une réponse négative et la réaction du groupe est d'organiser à Québec en 1984 un atelier international écomusée nouvelle muséologie. De cet atelier apparaît la déclaration de Québec, principe de base pour une nouvelle muséologie, document fondateur du MINOM, Mouvement international pour la nouvelle muséologie. Il était formalisé, le mouvement était formalisé l'année suivante par les membres. Cette trajectoire marque encore ses caractéristiques d'un mouvement notamment répandu dans les pays de langue française, portugaise, inclusive, brésil et espagnol. Les idées principales de la Déclaration de Québec sont autour de la nécessité de mettre en pratique les idéaux de Santiago, la priorisation du développement social et de la participation de la population, mais toujours la nécessité du nouveau mouvement d'être reconnu, ainsi que les nouvelles typologies des musées refusées par l'ICON. Finalement, nous arrivons à la première rencontre internationale des comités organisée par Fernando de Camargo Moro. En parallèle, on a un peu de trauma au Brésil de parler de ces noms mots. En parallèle, au sommet de la Terre, ECO-90B, au Rio de Janeiro, avec un objectif concret d'implantation d'un écomusée à Rio de Janeiro, l'organisation a invité plusieurs acteurs internationaux, comme Hugues de Paris, France, Marc Botini, Portugal, Hernan Crespo Toral, de l'Équateur, et des rivaux du Canada, mais aussi des brésiliens comme Mário Chagas, o piano de Zé de Menezes, Maria Célia Santos e plusieurs d'autres. Cette rencontre marque aussi le début des échanges plus systématiques entre la mythologie brésilienne et portugaise. L'année suivante est créée une formation en mythologie sociale devenue socio-mythologie à Lisbonne, avec l'intense coopération jusqu'au présent moment entre des Portugais et Brésiliens qui se sont une intense coopération entre les Portugais et les Brésiliens qui se sont rencontrés à Rio cette année. Une des conclusions de la rencontre est la reconnaissance d'un processus déjà existant à Santa Cruz, quartier périphérique du Rio de Janeiro, comme un musée. Donc, il avait un projet de créer un écomusée à Rio de Janeiro, mais une des conclusions de la rencontre, c'était qu'il avait déjà un écomusée qui ne s'appelait pas comme ça. Cet écomusée, un des premiers au Brésil, est aussi à l'origine de l'association brésilienne des écomusées et des communautaires ABRE. Je cite les mémoires du Devarim par rapport au contact avec le Brésil à ce moment. Je me souviens de l'intense réflexion sur le patrimoine analysé selon les spécificités brésiliennes, avec une forte volonté de libération de forces vives et d'autonomie par rapport aux influences et aux standards apportés de l'extérieur, notamment de l'Europe. Ce qui, en tant qu'Européen moi-même, je ressentais tout particulièrement. Il en reste, je crois, la constitution et le développement d'une muséologie proprement brésilienne qui se manifeste plus dans les territoires les plus isolés ou défavorisés que dans les grands musées restés traditionnels et centrés sur leur collection dans les logique institutionnelle. Dans les dernières décennies, simultanément à la perte en France de son expression et la dissémination, cette nouvelle muséologie a pu assumer de nouveaux contours conceptuels géographiques, spécialement à partir de la demande de sujets émergents dans le monde des musées et du patrimoine pour épistémologie symétrique et décoloniale. C'est comme dans le projet de recherche de l'Université de Liège, morphologie en sujet ne sont pas par hasard au pluriel, parce que
les diverses tendances apparaître dans les différents contextes d'insurrection contre les modèles établis et traditionnels du musée. En parallèle ou après la nouvelle muséologie, nous avons vu l'apparition de l'écomuséologie, l'altermuséologie, la muséologie de la rupture, la muséologie du point de vue, la muséologie communautaire, la muséologie populaire, muséologie de la libération, muséologie sociale, sociomuséologie, muséologie alternative, muséologie critique, la muséologie participative, les muséologies indisciplinées, les muséologies affectées. Enfin, de plusieurs muséologies touchées par l'esprit d'insurgence et de décolonialisme. Dans un niveau international, le Brésil apparaît comme un pionnier des innovations dans les champs musées et s'articule en différents fronts. Les MUNON, les réseaux de musées communautaires en Amérique latine, animés par l'Union des musées communautaires de Oaxaca, Mexique, mais également avec des échanges plus ponctuels avec les pays de langue portugaise, surtout Portugal, mais parfois aussi en Afrique. Entre les particularités du champ muséal patrimonial brésilien, la présence de l'éducation patrimoniale, processus de conscientisation de la population par la reconnaissance, valorisation, transmission de leur patrimoine matériel et immatériel, les cercles de mémoire et la méthodologie de l'inventaire participatif. Le patrimoine, à la fois matériel et immatériel, est pris comme un outil pour l'incapacitation des individus et des collectifs, surtout les plus défavorisés. Par rapport aux origines, souvent associées au mouvement de la nouvelle muséologie, donc les références sont là, les inspirations, je remarque notamment particulier l'aspect militant de la nouvelle muséologie brésilienne, qui reconnaît les pouvoirs de mémoire comme contrepoint à la tradition des musées ancrés sur la mémoire du pouvoir. Donc, c'est une idée de Mario Chagas, ce passage de mémoire du pouvoir au pouvoir de la mémoire, ou des mémoires du pouvoir. Il s'agit donc d'une muséologie marquée par l'esprit de lutte contre l'hégémonie. Bon, je profite ces regards extérieurs de Paris pour souligner avec une partie, pour souligner avec lui une particularité des agents de ces processus. Même si une quinzaine de formations muséologiques de niveau universitaire existent au Brésil, la plupart des responsabilités acteurs des musées communautaires que j'ai connus, n'avaient pas une telle formation lors du lancement de leur projet. Soit ils étaient bénévoles, soit ils avaient une qualification ou expérience professionnelle sans rapport avec le patrimoine et le musée. C'est le plus souvent qu'après avoir commencé la réalisation de leur projet, qu'ils ou elles ont recherché les opportunités de formation, soit dans des modules courts, soit des formations universitaires. Il y a un processus d'apprentissage très intéressant et bien adapté à la spécificité des musées communautaires. Inventer un projet, une structure en fonction du contexte et besoins locaux, puis aller chercher les compétences techniques et scientifiques nécessaires qu'on adaptera au projet déjà mis en œuvre. L'invention du musée n'est donc pas gênée par une approche trop formatée et théorique, mais le développement a besoin d'apports théoriques et de confrontations avec d'autres expériences. Il me semble que l'extraordinaire multiplication du musée d'initiative aux participations communautaires que le Brésil a connu dans les années 90 et 2000 correspond à un phénomène de prise du pouvoir culturel au niveau des territoires et des communautés relativement indépendant des politiques officielles. Ces musées pauvres, non professionnels, sans collection systématique, avec peu de support scientifique initial, ont accompagné l'évolution endogène de la société brésilienne depuis la fin de la dictature. Ce n'est que tardivement, à partir des années 2010, que les écomusées, musées communautaires, musées indigènes, musées de quartier ont été reconnus officiellement par les villes et les systèmes et réseaux d'État, et enfin, au niveau fédéral, c'est-à-dire l'IBRAM, l'Institut brésilien des musées. Donc, les conseils des communautés avec qui je travaille, c'est un groupe de personnes unies par des liens historiques liés aux aspects territoriaux, éthiques, culturels ou de genre, en particulier motivés ou organisés pour la lutte collective pour surmonter les inégalités. Politique publique. La muséologie sociale, du point de vue présenté ici, est engagée à réduire les injustices et inégalités sociales avec la lutte contre les préjugés, l'amélioration de la qualité de la vie collective, le renforcement de la dignité et de la cohésion sociale, l'usage du pouvoir de la mémoire, du patrimoine et du musée en faveur des communautés populaires, les peuples indigènes et quilombolas, mouvements sociaux, y compris les mouvements LGBT, les MSC, mouvements sociaux, entre autres. C'est une citation de Marie-Charles Agnès Gouveia. Les acteurs de la muséologie sociale brésilienne sont surtout les militants et les bénévoles sur des communautés et du territoire d'émergence de ces processus de muséalisation. Organiser un réseau pour l'échange d'informations, des expériences, des collaborations mutuelles, ces acteurs gèrent les musées communautaires presque sans ressources financières, ce qui rend fragile la continuité du processus. Parler de politique publique pour l'échange muséal au Brésil est aujourd'hui et malgré tout, parler de l'Institut brésilien des musées, même si des provinces et des villes possèdent aussi des musées, mais peu de politiques publiques systématiques et concrètes pour les musées. Le département des musées de l'Institut du patrimoine historique et artistique national, DEMU, IFAN, créé en 2003, est à l'origine de la naissance de l'IBRAN, qui possède cette histoire des racines communes, mais aussi des séparations turbulentes de son grand frère. Du point de vue des concepts de mission, des désordres après la séparation, les monuments classés, les patrimoines archéologiques et les patrimoines immatériels se sont restés avec l'IFAN. Et les musées sont passés à l'IBRAN. Donc cette porosité, qui je pense qu'elle était très positive aussi, elle était un peu perdue dans la définition et séparation des missions entre les deux instituts, même s'il y a aussi des avantages et rapport de force et indépendance au monde du musée, mais de toute façon, parfois est un peu difficile du point de vue conceptuel parler d'une muséologie plus intégrée quand le patrimoine est séparé dans une autre institution. Ça signifie un héritage, cette origine commune entre IBRAN et IFAN signifie un héritage de musée plus ancien que les deux institutions, car l'IFAN créé en 1937, mais avec un musée plus ancien que lui-même, devenir responsabilité acquise par l'IBRAN. Ces musées, le Musée historique national, est de 1922. Dans les processus de transfert, certaines maisons d'expression régionale, parfois petites mais avec collection, ont passé à être nommées musées et à la responsabilité de l'IBRAN. Cette trajectoire explique une dispersion très irrégulière dans le territoire brésilien, car au contraire de l'IFAN, qui possède une siège administrative à chaque État ou province du pays, l'IBRAN les possède seulement dans la capitale, Brasília et au Rio de Janeiro, et utilise les 29 musées qui l'appartiennent comme des structures pour les rayonnements dans les territoires. Mais ils sont trop concentrés dans les provinces de Rio de Janeiro et Minas Gerais. Et parfois, sont trop petits, presque sans ressources humaines, malgré l'appartenance à l'organe fédéral. Donc, en effet, l'IBRAN est responsable direct par 29 musées, mais il y a une actuation par les environ 3 700 musées dans tous les pays.
C'est montré ici, même si c'est un peu faible,
mais on voit au moins qu'il y a une grande concentration au littoral du pays, surtout les sud-est et sud du pays, et des grands vides au nord et centre-ouest du pays. Les structures fédéralistes du pays permettent l'existence de trois possibilités d'attachement administratif pour les musées publics, soit municipales, plus nombreux, provinciales ou fédérales, et ensuite des musées privés appartenant à personnes, institutions, fondations et entreprises. Même dans les niveaux fédéraux, l'ancien ministère, maintenant secrétaire des cultures, n'était pas responsable pour le plus grand nombre de musées, car ils sont présents dans les ministères de l'infrastructure, de la justice, de la science, technologie, etc., mais surtout dans les ministères de l'éducation, qui possèdent quelques centaines de musées dans les universités fédérales. Donc, en effet, le ministère de la Culture a 29 musées, mais le ministère de l'Éducation plus de 300. L'IBRAN a été créé avec la mission de renforcer les secteurs muséaux parisiens. Il n'est responsable que par la gestion directe des 29 de l'ancien ministère de la Culture, mais joue un rôle dans les politiques publiques pour orientation, normalisation et appui à l'ensemble des musées brésiliens, inclus les musées privés. Je vais sauter quelque chose ici, mais je voudrais dire surtout que l'affaiblissement du ministère de la Culture et de l'IBRAN ne permet même pas d'actualiser ces chiffres. J'ai utilisé ici un livre qui était publié en 2011, un chiffre du Musée du Monde, qui n'était pas. Qui n'avait pas eu une actualisation, une nouvelle édition après 2011. Donc, l'IBRAN a toujours souffert du manque de ressources et il a passé par un effet affaiblissement encore plus fort, autant que tous les champs de la culture au Brésil après le coup d'État de 2016 et surtout dans les nouveaux gouvernements. Le président Bolsonaro a supprimé le ministère de la Culture et essayé de supprimer l'IBRAN. Une énorme mobilisation du champ avec les lettres ouvertes et raisonnements techniques contre la suppression, ensemble avec une articulation avec certains membres du Parlement, a réussi à arrêter le processus jusqu'au moment. Mais comme tout au Brésil maintenant, sur tous les aspects de l'éducation, culture et des droits sociaux, l'IBRAN et ses politiques passent le 10e anniversaire en danger. En 2012, l'IBRAN diffusait la croissance de 1000%, environ 1000% des investissements dans les musées en une décennie, et un public augmentait de 15 millions par an en 2003 pour 80 millions. Malgré cela, 80% des quartiers municipaux brésiliens ne possèdent pas un musée. Et la concentration, vous avez vu dans la carte, et environ 80% des Brésiliens n'ont jamais rendu visite à un musée. La plupart des musées brésiliens sont dans la région sud-est et sud, presque 70%. Et c'est là aussi la concentration des investissements gérés par une loi de renonce fiscale. La plupart de nos musées sont publics, 70%, l'entrée est majoritairement gratuite, 80%, et les prix moyens dans les territoires est inférieur à 1 euro. Parmi les municipalités brésiliennes, seulement 21% au moins un euro. Les champs muséaux reproduisent donc les remarquables inégalités sociales et économiques entre villes et régions, au même temps que sa dissipation dénonce aussi les inégalités de consommation culturelle et l'énorme nécessité de quête de public. Donc la marque brésilienne dans l'action éducative des musées est aussi due à la reconnaissance du grand défi de changer l'image des musées devant la population en général, séduire de nouveaux publics et universaliser l'accès. Donc, ici, c'est un peu une ligne du temps des politiques publiques du secteur muséal pour marquer que la politique nationale du musée est faite avant l'existence des migrants. En effet, il y avait un département de musée et centre culturel dans l'Institut du patrimoine historique et artistique national. C'était créé un an après le système brésilien des musées. C'est très important du point de vue des réunions, des informations et rayonnement des actions dans les pays. Et le Forum national des musées, qui à chaque deux ans se réunit. Un registre national des musées, qui est très désactualisé, comme je dis. Les 30 ans des musées, donc les événements nationaux, en réalité, c'est une programmation créée pour l'IVE, qui ne fait pas un investissement spécifique, mais qui réunit les informations et publie un cahier, parfois seulement digital, mais avec la programmation dans tous les pays. Semaine nationale du musée en mai et 30 ans de musée en septembre. Et donc, tous les musées communautaires aussi participent et envoient des propositions de programmation. La loi des musées de 2009, et l'IBRAN, en effet, est créée en 2009, pardon. En 2013, il a été créé le programme national d'éducation musicale qui est devenu politique l'année dernière, ou deux journées avant. Et le programme un point de mémoire qui s'était institutionnalisé seulement après beaucoup de luttes en 2017. Bon, je saute d'autres choses, c'était pour parler un peu de l'expérience des réseaux qui est très importante au Brésil, donc pas seulement les systèmes hiérarchisés par l'État, mais les réseaux de thématiques de toute façon, comme les réseaux d'éducateurs de musées, c'est le cas de différents réseaux ici, mais aussi réseaux de musées par thématique, réseaux de professeurs de muséologie, réseaux de muséologie sociale, réseaux de musées indigènes, etc. Et pour la politique publique aussi, c'était important la multiplication des enseignements qui a fait passer le bachelier en muséologie de 2 à 15 et le master à 5 masters en muséologie actuellement. Même si, comme on a déjà dit, la muséologie sociale ne dépend pas directement de cette formation. Mais je suis d'accord avec Hugues Devarin que la multiplication des enseignements fait que des professeurs et étudiants se sont rapprochés des différents contextes locaux et donc ils sont nourris des pratiques locales et des réflexions partagées avec des interlocuteurs nouveaux. Ça veut dire qu'à la place de la muséologie sociale, apprendre avec l'université apprend beaucoup quand elle entre dans les plaisirs profonds, disons, avec les différentes expériences. Bon, je vous invite à télécharger après ce livre, Memory Spots, méthodologie pratique en sociomuséologie. Social Muséologie. En effet, il y a aussi en portugais et en espagnol, si vous préférez. Donc, c'est un livre construit collectivement par migrants. En effet, les 12 points de mémoire pionnières ont écrit le texte. Donc, je ne vais pas profondiser les cas de points de mémoire qui sont aussi sujets de la conférence de Laetitia, mais je voudrais seulement montrer un exemple vite qui se proche de ma ville d'origine, Fortaleza, le musée indigène Famidé. Donc, il est fondé par Cacique Sotero, c'est leader indigène, et ouvert en 1995. Le cacique lui-même a rassemblé les objets, a fait don du bâtiment et a organisé un espace de travail à l'entretien du musée. En raison des conflits ethniques qui prévalaient à cette époque, le musée déjà existant dans sa maison resta secret jusqu'à cette année où les conflits fonciers de Canidé et de Mitre, où les reconnaissances sont devenues plus agressives lorsque c'était l'occasion d'offrir les musées publics. Selon Bon Musée Vieira Neto, ce groupe autochtone est
L'un des moins étudiés du Ceará, la Provence, signifie que le musée constitue un centre de documentation extrêmement important. Avec le soutien de l'association Mission Ténébé, les candidats se sont engagés dans le mouvement autochtone local et efforcés pour mettre en place un système scolaire différencié. Les peuples indigènes ont été considérés disparus de la Provence du Ceará. Pour l'historiographie régionale, ils sont toujours liés. Et après la constitution citoyenne, que j'ai déjà mentionné l'importance, il y a eu un processus de réémergence ethnique et auto-identification. Et donc, cette initiative du peuple Canidé a utilisé les musées un peu comme un entrée de permanence pour montrer qu'ils existaient, parce que la langue et d'autres traits n'existaient plus. Et aujourd'hui, ils sont, après un travail, un processus long de travail, de documentation des pièces, de réaménagement, etc., il y a même un indigène qui fait un bacharel en muséologie, un autre qui fait un master en anthropologie, donc ils cherchent maintenant la formation, mais comme on a dit avant, ça a commencé dès l'expérience. Donc c'est la conclusion. Je saute un autre cas intéressant, c'est le musée de déplacement. Peut-être dans la discussion, je pourrais mentionner, c'est un musée. Museu das Emoções, em português, que até criei a Rio de Janeiro dans un quartier expulsé para le renouvellement urbain pour les Jeux Olympiques de 2016. C'est un museu de parcours dans les ruines de la favela, de la communauté qui existait avant. Ils sont dopés avec un musée traditionnel, mais en effet, ils ont fait un plan muséologique qui participe de la Semaine nationale de musée. Il y a deux thèses de doctorat déjà qui ont ces musées comme sujet. Il fait beaucoup de partenariats avec le musée classique aussi. Il y a des expositions et des pièces de ces musées qui sont devenues pièces du musée historique national. Donc, pour la conclusion, je dirais que c'est important cette porosité aussi entre les musées communautaires et les musées traditionnels, comme c'est le cas du Musée historique national, et qui apprend avec les musées communautaires, la muséologie sociale, à se rapprocher des différentes communautés et à s'engager dans les questions sociales.